Bonjour, ici Daniel Poulain. Je tiens à vous remercier d'être là pour venir écouter ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans ce message-là, on va voir un peu une continuité avec ce qu'on a vu avant les fêtes. Quand on a fait un survol des prophéties bibliques, il y avait des encouragements du Seigneur. Puis je crois que le Seigneur veut encore nous bénir, il veut encore nous donner des encouragements pour qu'on puisse aller de l'avant dans cette nouvelle année. Le thème de cette comme petite mini-série qu'on va regarder ensemble, c'est « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». Ça veut dire que Dieu a en réserve des temps de rafraîchissement. Dieu en réserve des choses pour chacun de nous. Il veut qu'on grandisse dans le Seigneur, il veut qu'on se fortifie, mais il veut aussi nous renouveler, nous rafraîchir. Puis, si on regarde justement pour faire le point avec la nouvelle année 2021 qu'on vient de commencer, combien est-ce qu'il y en a d'entre nous qui ont trouvé l'année 2020 difficile? Si on pose la question aux gens, tout le monde va vous dire qu'ils ont trouvé ça difficile. Le confinement, les privations, les activités qui étaient plus là, les églises qui pouvaient plus se réunir. Il y a des églises, ça fait depuis le mois de mars, qui ne se réunissent pas. C'est sûr qu'il y a des moyens qu'on peut se communiquer ensemble, mais c'était détendu spirituellement. Autant que Dieu veut que les chrétiens s'assemblent pour pouvoir s'édifier et se fortifier ensemble, mais autant aussi que les gens, les situations dans le monde nous amènent à ce qu'on puisse vivre des pressions, puis avec ces pressions-là, ça nous prive de ce que Dieu avait prévu pour nous, de bénédiction. C'est sûr que Dieu n'a pas perdu le contrôle, puis le Seigneur se sert de cela pour pouvoir fortifier ses disciples, mais d'une autre manière. Parce que je crois qu'il va arriver encore d'autres choses par la suite. Des choses peut-être encore plus, pas peut-être, beaucoup plus graves que qu'est-ce qu'on vit présentement. Si on considère aussi qu'on commence l'année 2021, combien est-ce qu'il y en a qui pensent que l'année 2021, ça commence mal? Le confinement, il a augmenté. On est rendu qu'on est privé de sortie. On n'a plus le droit de sortir après 20 heures. Il y a toutes sortes de pressions encore pour essayer de réduire la propagation de ce virus-là, pour essayer de limiter les dégâts. Puis, ça s'annonce pas bien pour la nouvelle année. Puis, Dieu veut quand même, selon ce qu'on a vu dans Actes 3:20 qui nous dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». Ça veut dire que Dieu veut quand même nous rafraîchir, nous bénir. On peut s'attendre à ce que Dieu nous fasse du bien malgré les conditions difficiles. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à vivre en tant que chrétien. Apprendre à dépendre du Seigneur, à s'attendre du Seigneur, que le Seigneur vienne puis qu'il fasse son œuvre au milieu de nous. Le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui puis en même temps nous donner une vision pour affronter le futur. On parle juste de même pour parler. Admettons qu'il y aura des choses beaucoup plus difficiles qui vont arriver. Sommes-nous prêts à les traverser? Vivons-nous comme un ressourcement complet chaque jour, comme si on est rempli du Saint-Esprit, puis on s'en fortifie pour aller de l'avant, ou on a de la misère, puis on force, puis on cherche des moyens à droite et à gauche, mais on se sent pas dedans. Mais il faut tout de suite prendre conscience que dans le Seigneur, il y a un rafraîchissement, puis qu'il faut apprendre à aller le chercher. Dieu il a une parole d'encouragement pour nous, puis quand je vous dis ça, c'est parce que Dieu, il me parle pendant la nuit, à mon éveil. Ces versets-là, c'est les deux versets clés. Des temps de rafraîchissement, c'est le thème, mais il y a aussi le verset que je vais vous lire d'encouragement que Dieu veut nous donner dans Apocalypse 3, chapitre 10 et 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu nous parle qu'il y a des choses, premièrement, il y a une super belle promesse là-dedans, mais on va regarder certains points qui sont écrits dans ce passage-là. Il nous parle d'une super belle promesse, mais avant, le Seigneur nous annonce la venue de temps durs sur l'humanité. de quelque chose qui va arriver sur l'humanité en entier, puis sur tous les habitants de la terre. Dans le passage, ça dit l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. À travers les siècles, il y en a eu des choses de toutes les sortes, de toutes les couleurs, des guerres, des problèmes, des difficultés, des problèmes climatiques, parce qu'il y a eu des volcans, il y a eu des tornades, il y a eu toutes sortes d'affaires, que ce soit des choses de la température, de tout l'environnement, ou que ce soit entre les pays, puis les guerres, des dictateurs. Fait que des temps durs, il y en a toujours eu, mais là, ici, on parle d'un temps dur qui va venir sur le monde entier. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit noir sur blanc. Ça nous dit une heure de tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça veut dire qu'il va arriver un temps très dur, comme qu'on vit présentement, mais ça veut pas dire que c'est celui-là, ce temps-là. On parle de tentation dans ce passage-là, mais le mot, ça pourrait être épreuve qui vient sur le monde entier. Puis ça dit pour éprouver, ça veut dire que c'est quelque chose qui va faire comme un test sur l'humanité en entier, qui va amener les gens à des décisions, à prendre des décisions, puis ce test-là va faire que les gens vont marcher dans la foi ou ils vont carrément tomber. Puis Jésus nous avertit en nous disant ces versets-là. Il nous avertit parce qu'il veut qu'on saisisse la portée de cela. Là. Il veut qu'on se prépare même à affronter ces moments-là. Puis autant que c'est écrit dans la parole de Dieu, autant je crois par révélation, Dieu me l'a montré que ça va arriver, puis c'est très bientôt. Déjà, là, ce qu'on vit présentement, le confinement, il est mondial, ça éprouve les habitants de la terre. Dieu voit l'attitude des gens, puis il voit la manière que les gens réagissent, soit spirituellement conforme à sa parole, ou soit charnellement, en démontrant une attitude de rébellion, de critique, d'animosité, d'essayer de frapper, puis de tout casser. Parce que les gens pensent à leur liberté, à ce qu'ils vivent, mais est-ce que les gens pensent aussi aux autres, puis en fonction du corps de Christ, puis la bénédiction qu'on a quand on est ensemble? Tout ça, là, on n'est pas là pour débattre qu'est-ce qu'on doit vivre, présentement, mais il y a une chose, faut se préparer à des temps difficiles, puis ces temps difficiles-là doivent être traversés avec la présence de Dieu, le rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Pour ça, même si on n'a pas de réunion en assemblée, il faut apprendre à aller puiser dans le Seigneur. La Bible nous avertit aussi dans un autre passage, dans un enseignement de Jésus, que toute maison sur cette terre, ça représente les individus sur cette terre, croyants comme non-croyants, vont être éprouvés par des tempêtes qui viendront. Dans nos vies, on a vécu plusieurs situations difficiles, puis je crois qu'il va en arriver encore des plus grandes, puis ça va arriver sur tout le monde, sur toute la surface de la terre. Dans Luc au chapitre 6, le verset 48 et 49, c'est ce que ça nous explique. Il dit que c'est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, il a creusé profondément, puis ça nous dit qu'il a posé le fondement sur le roc. Là, il y a une inondation qui est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, qui met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, puis la ruine de cette maison a été grande. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est en train de nous démontrer que tout le monde, que tu sois bâti sur le roc ou bâti sur le sable, on va vivre des situations difficiles, des torrents qui se jettent sur notre maison, des tempêtes, des vents, de la pluie. Il va arriver toutes sortes d'événements qui pour ébranler la maison, que tu sois bâti sur le roc ou non. Puis dans ce passage-là, ce que Jésus a voulu nous montrer, c'est qu'il nous dit que quand tu es bâti sur sa parole, tu es bâti sur le roc. Ça veut dire que quand tu mets en pratique ce qui est écrit dans la Bible, c'est de bâtir ta vie sur le roc. Je parle pas juste de le savoir ici, c'est d'agir et de réagir conformément à ce qui est écrit dans la parole. Si on réagit charnellement, notre maison est en train de s'effondrer. C'est comme marcher selon la chair. Il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Fait que le Saint-Esprit puis la parole de Dieu doivent nous animer, doivent être ce sur quoi on bâtit notre vie. C'est ça qui va nous rendre solides, pas solides humainement parlant, solides spirituellement parlant. C'est qu'on va être des hommes, puis des femmes, des gens d'action qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est de même, quand on marche dans la parole de Dieu, puis dirigé par le Saint-Esprit, que notre maison va rester solide. On a vu dans l'étude sur le retour de Jésus, tous les signes qui ont été prédits, que ce soit les sceaux, les trompettes, les coupes qui doivent être déversées sur la terre. Avant le retour de Jésus, parce que Jésus revient à la 7e trompette, c'est la dernière trompette que Paul dit, à la 7e. Puis ça nous dit qu'il va avoir les 6 autres avant, il va avoir les sceaux avant, puis il va avoir aussi les coupes qui vont être là. Puis ça va s'abattre sur la terre, c'est des événements terribles qui vont arriver sur la terre. Puis on a besoin d'être bâti sur le roc, d'être appuyé sur le roc et la parole de Dieu pour être capable de passer à travers spirituellement puis de rester debout quand Jésus va revenir. On a besoin d'être ancré dans l'idée de persévérer dans sa parole. De bâtir sur le roc, c'est persévérer dans sa parole, à chercher à la comprendre puis surtout de la mettre en pratique. Parce que si on bâtit pas sa parole, on va commencer à réagir charnellement, puis on va agir de façon qui va détruire notre témoignage, va détruire notre relation avec Dieu, puis on s'éteint spirituellement, on devient charnel. Quand on est rendu charnel, on est déconnecté d'avec le Seigneur et ses instructions. Bien que Dieu veut qu'on marche avec lui, il veut qu'on marche avec le Seigneur, qu'on soit rempli du Saint-Esprit, puis qu'on soit rafraîchi. C'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pour cela, faut que tu restes dans sa voie, dans son chemin, d'être dans l'attente de sa parole. Parce que la parole, il y a un mode de vie, mais il y a aussi des promesses que Dieu veut nous donner pour nous bénir puis nous faire du bien. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, ça nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Parce que tu as gardé la parole de persévérer, de pas lâcher, de rester ferme à bâtir ta vie sur la parole de Dieu, rester en Jésus, rester dans son chemin. C'est ça qui est le sens de ce verset-là. Parce qu'on décide de rester dans son chemin, puis qu'on s'applique à demeurer dans son chemin, Jésus nous fait des promesses. Mais de garder la parole de la persévérance en Jésus, de continuer à dire, je veux persévérer dans l'obéissance au Seigneur, je veux demeurer en Jésus. Il dit, si on obéit à sa parole, Jésus, si on obéit à ses commandements, on demeure en lui, puis lui en nous. Il y a plein de versets qui nous disent cela. Marcher d'une manière dans l'obéissance fait qu'on demeure en lui, et de vouloir aussi persévérer dans sa parole qui fait qu'on va avoir la force qui est promise par Dieu, parce que Dieu est avec nous. Jésus, il voit ceux qui s'accrochent à sa parole, puis il connaît ceux qui s'accrochent à sa parole. Des fois, on pense que on fait des choses à cachette, puis on pense que Dieu le voit pas. Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on agit, ce qu'on dit, ce qu'on réagit. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il connaît ses brebis. Dans Jean 10, 27, ça nous dit que Jésus, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça veut dire que si tu dis que tu es une brebis du Seigneur, c'est parce que tu entends sa voix. Tu entends la voix du Seigneur. Puis Jésus les connaît, ceux qui entendent sa voix. Puis pas juste entendre le bruit, qui marche dans l'obéissance de sa voix. C'est plus que ça, parce que la Bible a dit que le Saint-Esprit travaille à essayer d'amener la conviction pour que les gens viennent au salut. Ils ont tous entendu la voix sans l'entendre. Tu peux entendre des choses de Dieu, puis pas entendre ce que Dieu veut que tu fasses, de répondre à son appel. Dans ce passage-là, il dit « Mes brebis l'entendent, ma voix. » Là, Jésus nous connaît quand on l'entend. « Et elles me suivent. » Une brebis du Seigneur suit le Seigneur, obéit au Seigneur, obéit à sa parole, à ses commandements, marche selon la parole de Dieu. C'est ça le chemin qui nous mène à la vie. Fait que si on dit qu'on est des brebis du Seigneur parce qu'on a entendu sa parole, mais « et elles me suivent », ça veut dire qu'on doit déjà avoir une volonté de le suivre, mais à persévérer à le suivre, même dans les moments difficiles. Les choses difficiles qui vont s'abattre sur la terre, il y en a présentement, puis on doit apprendre là-dedans à fonctionner d'une manière qui va faire qu'on démontre au Seigneur qu'on est avec lui, puis il dit « parce que tu gardes ma parole, il va nous garder ». Une caractéristique d'une véritable brebis du Seigneur, c'est qu'elle s'attache aux paroles de Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Puis ils ne rentreront pas. Ils ne se rendront pas. Ils vont abandonner parce qu'ils n'obéissent pas. C'est ça qui est le point que je veux qu'on regarde aujourd'hui. On part une nouvelle année, on est dans des temps difficiles, on pense qu'il va arriver des temps durs aussi en 2021. Fait qu'il faut se préparer spirituellement à se dire, moi, là, dans 2021, faut que je marche selon la parole de Dieu. Faut que je m'applique. Faut que je fasse tout, je mette tous mes efforts. Avec l'assistance du Saint-Esprit, bien sûr, je dis pas d'être charnel puis d'essayer par notre chair, mais quand tu marches avec le Seigneur, tu es en communion avec son Esprit, par l'Esprit, tu vas faire mourir les actions de ton corps, par l'Esprit, tu vas vivre des rafraîchissements, tu vas vivre des choses que le Seigneur, parce que le Seigneur va t'emmener plus loin. Il voit notre persévérance à s'attacher à sa parole puis à vouloir y persévérer. C'est pour ça que vu qu'il est témoin de tout, on peut pas jouer à l'Église ou faire semblant. Tant qu'à se consacrer au Seigneur, consacrons-nous au maximum. Si on veut être béni, rafraîchi du Seigneur, faut bâtir sur le roc et sa parole. Jésus voit l'amour que nous avons de la vérité. Quand on parle de la vérité, là, on parle de Dieu, que Dieu, c'est Dieu véritable. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Puis la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand tu t'attaches à Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et à sa parole, c'est la vérité. Puis Dieu voit si on a l'amour de la vérité. Si vraiment on est en amour avec la vérité, on va marcher avec la vérité. Puis il est prédit, déjà, dans la parole de Dieu, que ceux qui n'aiment pas la vérité, mais ils vont tomber dans la puissance d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 et 10, ça nous dit, l'apparition de cet impie, en parlant d'un antéchrist, va se faire par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez-vous, l'antéchrist va venir, il va un impie qui va apparaître, qui va vouloir contrôler le monde, puis il va s'opposer à Dieu, puis il va faire une persécution mondiale contre les chrétiens, puis il va faire des signes, des prodiges mensongers. Ça veut dire tout ce qu'il dit, c'est du mensonge, tout ce qu'il fait, c'est du mensonge, même des miracles, parce qu'ils ne sont pas faits par l'Esprit de Dieu. Il va y avoir des actes étonnants qui vont se produire par la puissance de Satan. Mais ça nous dit, toutes les séductions de l'iniquité vont être dans ce personnage-là, pour séduire, pour tromper, pour mêler les gens, mais les attirer, parce qu'une séduction, ça l'attire. Puis les gens vont aller à lui. Qui va aller à lui? C'est ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Je vous ai dit tantôt que Dieu, c'est la vérité, sa parole, c'est la vérité. Si on n'a pas l'amour de la parole, si on met la Bible de côté parce qu'on y croit pas, on veut pas chercher à y trouver des promesses ou des choses à vivre pour démontrer ta foi, tu es en train de marcher à côté de ce que la Bible elle enseigne. Si tu as perdu cette flamme-là, ce désir-là, de l'amour de la vérité, faut se repentir puis demander au Seigneur de venir produire ça en nous, qu'on puisse aimer lire la Bible, aimer Dieu, aimer Jésus, puis montrer qu'on l'aime en obéissant à sa parole. Faut revenir à cela, c'est la base de la vie chrétienne. Si on n'aime plus Dieu, on va se faire séduire par les mensonges de cet impie-là. Puis croyez-moi, il n'y a pas rien que lui qui en fait des mensonges. Il y en a déjà plein de mensonges qui circulent dans ce monde, puis que la puissance d'égarement est déjà commencée. Les églises qui se tournent à accepter des positions doctrinales qui sont anti-bibliques, des choses qui se vivaient pas, voilà 20 ans. Ça se pensait même pas, voilà 40 ans. Les gens prêchaient la sainte doctrine aujourd'hui, les gens laisse entrer le péché dans l'Église. Ils ont aucun discernement sur les choses que Dieu veut pas, puis qu'il faut s'éloigner des choses du monde, parce que l'esprit qui est dans le monde, l'esprit qui est dans le diable lui-même, puis le monde lui-même, puis notre chair, c'est trois ennemis principaux du chrétien qui nous entraînent à débarquer du chemin de Dieu. Puis il faut se garder spirituellement intègre dans la parole de Dieu. Nous avons reconnu que la parole de Dieu est pour nous. Puis pour nous, ça nous a été donné, on l'a aimé, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Puis cette parole-là, c'est la vérité. Mais elle produit plein de choses bénéfiques dans notre vie. Si il l'a pas compris, je vais vous en parler de quelques points que la parole de Dieu va faire comme effet dans notre vie. Une des choses que la Bible nous dit, dans le psaume 119, le verset 5, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible, c'est là pour nous éclairer. Quand on parle de nous éclairer, c'est pas une lumière physique. C'est une lumière spirituelle qui nous éclaire, qui nous rouvre les yeux, qui nous fait comprendre le plan de Dieu. Parce que nous, on est habitués à vivre selon le plan de ce monde, puis le plan de notre chair, le plan de nos pensées. Mais quand tu lis la Bible, ça l'allume des lumières, puis ça nous amène à comprendre le plan de Dieu. Dieu, il a un plan. Dieu veut, il veut nous amener à marcher d'une façon. C'est ça qui est l'idée. Puis la parole de Dieu est là pour nous éclairer. C'est une lampe, une lumière. Puis c'est pour ça qu'il faut la lire, la Bible, ou l'écouter. Il faut j'insère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, elle doit avoir une place importante dans notre vie. Si on la néglige puis on y croit pas, elle aura pas son effet, puis on va se perdre. On va marcher dans les ténèbres, puis les ténèbres, ils vont aveugler nos yeux, puis on va s'éloigner du sentier, puis on sera pas sauvé. Il y a plein de passages pour vous dire toutes ces choses-là. Une autre chose que la parole de Dieu est pour nous, c'est qu'elle est notre espérance. Ça nous dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1:5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Voyez-vous, la parole de l'Évangile, la parole nous fait connaître l'espérance qu'on a dans les cieux. Il y a des choses que Dieu réserve pour les chrétiens, qu'un jour on va rentrer dans la vie éternelle. On va être heureux de faire partie de cette vie-là. C'est des choses qui doivent être profondément ancrées en nous, qu'on doit être en amour avec Jésus, mais en amour aussi avec ses promesses. Il y a aussi des promesses pour le temps présent. C'est ça qu'il faut découvrir dans la parole, des versets, pour qu'on marche, puis qu'on ait de l'assurance, de l'espérance. Parce que quand un peuple est sans espoir, ben, le peuple périt. T'as plus de vision. Tu t'attends pas de rien sur Dieu. Tu fais ta vie seul avec tes propres forces, puis tu deviens soufflé, tu deviens écrasé, puis t'es plus capable d'avancer. C'est pour ça qu'il faut trouver en Dieu notre espoir, puis s'attendre sur Dieu, bâti sur ses promesses, pour chaque situation qu'on aura traversée dans ce monde en 2021. Parce qu'il va en avoir d'autres, des situations difficiles, puis il faut apprendre à se confier en Dieu, basé sur ses paroles. Un autre point qu'on voit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, ça nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Désirez comme des enfants spirituels le lait spirituel et pur, afin qu'on croisse pour le salut. Ça veut dire qu'un chrétien, s'il veut grandir spirituellement, s'il veut arrêter d'être un bébé, un enfant, pour devenir mature dans le Seigneur, devenir un homme de Dieu, mais il faut qu'il se nourrisse comme un enfant nouveau-né du lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous parle comment est-ce que la Bible est importante, que sans la Bible, on peut pas avancer, on peut pas croître, on peut pas vivre une vie renouvelée, transformée, remplie du Saint-Esprit, puis grandir dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Jésus, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'on a à apprendre à se nourrir de la Bible. La voix est plus que juste un livre qu'on lit. C'est une nourriture spirituelle. C'est un lait spirituel qui nous permet de grandir dans le Seigneur. Sans la connaissance de Dieu, on grandit pas. C'est aussi clair que ça. Après ça, on voit encore dans un passage dans 1 Jean 2, le verset 14 qui dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Ça, c'est Jésus. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Voyez-vous, dans ce passage-là, on est déjà dans la victoire. On a vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en nous. Quand tu es chrétien, puis que la parole de Dieu habite en toi, tu es fort. Tu es fort lorsque la parole, tu la vis. Si tu vis pas la parole de Dieu, puis tu bâtis sur le sable, t'es pas fort, puis t'es pas dans la victoire contre le mané. Tout ça, c'est un ensemble. Parce qu'on est dans la parole de Dieu, puis qu'on l'applique dans notre vie, ben on est fort, puis on a une victoire sur le malin. Parce que le malin, son travail, c'est d'essayer de nous amener à désobéir. Mais quand tu marches dans la parole, tu es obéissant, mais là, à ce moment-là, tu es fort et victorieux. Parce que c'est le but pour chaque chrétien qu'on obéisse à la parole de Dieu. Amen. En plus, qu'est-ce que la Bible a dit de la parole de Dieu? C'est que ça nous dit, dans Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Voyez-vous, prendre le casque du salut, ça c'est d'avoir l'assurance qu'on est sauvé. Mais prendre aussi l'épée de l'Esprit. C'est un épée, c'est un arme, la parole de Dieu, c'est un arme pour combattre dans le monde spirituel, combattre dans ce monde. On sert de la Bible, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est avec ça que Jésus s'est défendu contre le diable. Le diable est venu en amenant un verset tordu. Puis lui a répondu avec un verset pour contredire ce qui était là. On voit que juste un verset mal expliqué, ça peut être complètement une arme de Satan. Puis quand tu connais la parole de Dieu, tu connais les versets, là tu peux voir si ce verset-là est dans le bon sens, puis quand tu l'entends, puis là, comprendre avec d'autres versets, parce que la Bible, elle se contredit pas. C'est quand on pense qu'elle se contredit, c'est parce que elle est mal expliquée. est mal compris. Mais quand tu as la bonne manière de la comprendre, c'est la vérité, tu la comprends avec l'ensemble des versets sur un sujet. Là, tu prends le verset, puis tu contre-attaques le faux raisonnement, ce que l'ennemi essaye de mettre dans notre pensée. Puis là, à cause de cela, tu marches dans la victoire. C'est un épée pour ramener la vérité. Parce qu'on veut marcher dans la vérité, parce qu'on a l'amour de la vérité. C'est prendre ces armes-là, prendre la parole de Dieu, la mettre au centre de notre vie pour 2021, je pense que c'est une bonne résolution. Si on n'est plus capable de lire la Bible, commençons un chapitre par jour. Après ça, vous allez pouvoir rajouter d'autres éléments, mais je ne parle pas nécessairement d'écouter des prêches. Les prêches, c'est une affaire, mais de lire la pure, le lait spirituel est pur, la pure Bible, lire la Bible, c'est ça qu'on a besoin d'entrer pour développer notre discernement. Pas de se fier juste au discours de Monsieur Tout-le-Monde. On continue, l'idée, c'est que quand on marche avec le Seigneur, on revient au passage du début, dans Apocalypse 3:10, ça nous dit « Parce que tu as gardé la parole de persévérer en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Jésus nous garantit, il nous donne une promesse, là, c'est une promesse, parce qu'on demeure dans sa parole, il dit « Je te garantis que Dieu va te garder dans le temps de la tentation qui va venir pour le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Si tu veux être gardé, il y a une condition, faut que tu gardes l'idée de persévérer dans la parole en Jésus. C'est ça qui est le point. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, de persévérer en Jésus. De pas lâcher Jésus, de pas lâcher Jésus, je pense, ça parle aussi de pas lâcher sa parole. Tu as la parole dans ta bouche, tu confesses dans ta bouche, moi je veux rester conforme à la parole de Dieu. C'est ça qui est la parole de persévérer. De persévérer en Jésus, c'est de vouloir persévérer dans sa parole. Mais il faut que tu l'aies dans ta bouche. Hein. Si tu l'as pas dans ta bouche, dis-le présentement. Je veux persévérer en Jésus, je vais garder sa parole. Si tu penses de même, puis tu prononces ses paroles comme cela, puis là, ta vie va prendre un autre sens. Tu vas vouloir lire la parole de Dieu, tu vas vouloir grandir dans la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance. Mais Dieu, s'il te voit comme ça, comme j'ai dit tantôt, il voit ses brebis, il connaît ses brebis, puis il voit celle qui le suit, qui écoute sa voix, mais il dit qu'il va te garder à l'heure de la tentation. Dieu va déployer une puissance sur ta vie pour te garder dans la foi. Parce que tu fais effort de persévérer, il va te donner une capacité de passer à travers. Quand il nous dit « il nous gardera à l'heure de la tentation », c'est un mot-là, le mot grec là, c'est, premier, Dieu, il va t'observer. Il va te garder, il va te préserver, il va te réserver, il va te conserver. Ça ne dit pas qu'il va t'enlever de la tentation. Il dit pas qu'on n'aura pas de tentation. Il dit qu'il va, à travers la tentation, il va nous donner de rester en lui. Les sens, il va s'occuper soigneusement. Il va prendre soin de nous. Il n'a pas dit qu'il nous enlèverait de cela. La tentation va venir. On va être éprouvé, c'est biblique, on en vit déjà, puis ça va être encore pire que ça, mais qu'il y ait les sauts, les trompettes, puis les fléaux. Mais il dit, il va s'occuper, il va nous garder. Il y a une métaphore qui est, c'est maintenir quelqu'un dans l'état où il est. C'est ça que ça dit aussi dans le mot grec, le sens du mot grec, du dictionnaire grec. Il va nous garder, c'est qu'il va nous maintenir dans l'état où on est. Parce que tu gardes la parole de persévérance, de persévérer en Jésus, il va te garder dans cette idée-là. Il va te donner une force de continuer à rester dans cette idée-là. C'est ça qu'il faut aller chercher si on l'a perdu. Il faut demander au Seigneur de venir mettre ces choses-là dans notre cœur. Parce que, même que ça arrive, si on n'est pas dans cet état-là, déjà, là, pour être capable de passer des épreuves plus tard, on ne sera pas dans cet état-là, puis il ne nous gardera pas, puis on va tomber dans la puissance d'égarement. Carrément. C'est pour ça qu'il faut développer notre relation avec le Seigneur. Au verset 11 de l'Apocalypse, au verset 11, ça nous dit encore une promesse, en même temps, un avertissement. Ça dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Fait que, il y a une promesse, Jésus revient bientôt, puis si on peut le dire de notre bouche, Jésus revient bientôt, on peut même prier comme dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne, on veut que son règne vienne, on veut qu'il revienne bientôt, puis on y croit qu'il revient bientôt. Mais il dit, retiens ce que tu as. C'est quoi qu'on a? On a Jésus, on a aussi sa parole, retiens-la, faut la garder, faut rester ancré dans la parole. C'est la parole qui est la priorité. J'ai déjà entendu des messages, des prédications qui disent on marche par le Saint-Esprit puis on pouvait acheter la parole. C'est absolument faux. Ceux qui ont rejeté la parole vont être aussi rejetés par Dieu. La parole, c'est le chemin. C'est le chemin resserré qui mène à la vie. Il faut demeurer dans sa parole, obéir à sa parole. Ce que la Bible déclare péché, c'est péché, puis il faut s'en débarrasser. Il faut sortir du péché, parce qu'on nuit à notre relation, puis on nuit à notre force. Pour qu'on soit fort dans le Seigneur, vainqueur sur le diable, faut garder la parole. C'est pour ça qu'il dit « Retiens ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. » Tu peux te faire voler tes récompenses, puis tu peux même perdre ton salut, si tu t'accroches pas à obéir au Seigneur. Pour notre nouvelle année, nous voyons l'importance que doit prendre la parole de Dieu dans notre vie. C'est ça qui est le but, que Dieu veut semer dans nos cœurs, un cœur à vouloir marcher en relation avec le Seigneur dans l'obéissance à sa parole, puis continuer à le confesser qu'on veut marcher selon sa parole. On a reçu Jésus, nous gardons précieusement sa parole, prenons garde aux choses que nous allons traverser, puis malgré les temps durs, faut se rappeler que Dieu nous aime, puis il nous gardera. Malgré les temps durs. Parce que quand on va vivre des temps durs, si on n'est pas affermi dans la foi dans le Seigneur puis dans ses promesses, puis de rester ferme là-dedans, s'accrocher aux promesses puis aux faits comme Jésus nous a pardonné. Je confesse mes péchés, je crois que je suis pardonné. Il arrive des temps durs puis on peut penser que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous aime plus puis qu'on est déjà des rejetés. C'est faux. Si tu veux marcher dans la foi, marche dans la foi des promesses. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par la foi, on confesse nos péchés. On croit que Dieu nous a pardonnés puis nous a purifiés. On est encore avec le Seigneur. Jésus dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Dieu nous a donné plein de promesses qu'on peut s'appuyer. Puis dans notre obéissance aussi, ça c'est un tout. Il faut se rassurer avec la parole de Dieu. Il nous rassure dans plusieurs passages qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit ça dans Matthieu 28. Il dit, et voici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça parle à ceux qui enseignent la parole, d'amener les gens à obéir à ce qui est écrit, à obéir à la parole de Dieu. Puis Jésus nous dit une promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il faut apprendre à faire confiance à Dieu, puis ramener ces paroles-là à notre esprit quand ils vont venir des temps durs. Dieu m'aime, Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis déjà plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. On a déjà les promesses que nous sommes dans la victoire, qu'on a vaincu l'ennemi, parce que la parole de Dieu habite en nous. Et on la vit, on la met en pratique, puis on confesse notre foi dans ces versets-là. C'est ça que Dieu veut voir dans nos vies. Puis il nous a avertis dans plusieurs passages, comme dans Jean 16, 33, qu'il y aura des tribulations. Des fois, on se dit, mais on n'est pas rendu encore au dernier signe qui va arriver. Peut-être. Mais on a quand même des tribulations dans ce qu'on est en train de vivre. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que Jésus nous le dit qu'on va avoir des tribulations dans le monde. Mais il nous demande de prendre courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Il faut rester ferme dans l'amour du Seigneur, dans sa parole, puis il va nous garder dans l'état d'être bouillant pour le Seigneur. Il va nous donner la force qu'on aura besoin pour passer à travers des difficultés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Même si on se dit qu'on n'est pas encore dans les dernières tribulations, les pays, mais il y en a quand même de ce moment. Puis moi, je m'attends, je crois qu'il va en arriver d'autres, qu'on va vivre dans pas long. Faut s'attendre à pire. Puis j'encourage à puiser dans la parole de Dieu. Vous êtes sauvés, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez demandé pardon, vous avez confessé que Jésus, c'est le Seigneur. Il vous a pardonné, vous êtes son enfant, il vous a racheté. Vous avez reçu son Saint-Esprit, maintenant marchez dans l'obéissance de la parole, vivez la parole, confessez les promesses de la parole, attendez-vous sur Dieu. L'espoir, notre espoir, c'est Dieu, ses promesses, que Dieu va agir dans nos vies, puis il va le faire. Parce que Dieu, il est pas menteur. Je vais vous finir avec un dernier verset, dans 1 Pierre 5, 7, qui nous dit, puis là, il veut nous amener à croire en lui, puis qu'on lui remette tout entre ses mains, parce qu'il prend déjà soin de nous. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voyez-vous, dans ce passage-là, il nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur Jésus. Ça veut dire, tous les temps difficiles, que ce soit des temps difficiles personnels ou des temps difficiles à cause de ce qui se passe autour, dans notre vie familiale, au travail, que ce soit dans notre santé, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est déjà en train de prendre soin de nous parce qu'on lui appartient. Il agit, il fait ses effets, il pourvoit, il rouvre les portes, il nous donne son esprit. Puis, comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu nous restaure notre âme, comme qu'on voit dans le psaume 23. Il restaure notre âme. Il veut nous rafraîchir. Il veut nous bénir. Il veut nous rencontrer. Il veut nous donner des promesses. Il veut nous donner ses directions. Il veut pourvoir à nos besoins. Mais il dit, déchargez-vous sur lui. Ça veut dire, peut-être qu'on est écrasé, on est abattu, on sait plus où est-ce qu'on s'en va, on a perdu le nord, on est déboussolé, désorienté, on est assoiffé, on sent sec, vide intérieurement. C'est le temps de retourner à Jésus, puis de lui dire ce qu'on vit. Confessez votre état. Si vous êtes lié, enchaîné dans des péchés, demandez pardon à Dieu, puis demandez-y qu'il vous libère de cela, puis il est capable de nous délivrer. Puis il y a plein de promesses encore dans ce sens-là, pour les délivrances, pour des guérisons, parce que Dieu, il veut prendre soin de nous. Il a déjà commencé à prendre soin de nous, puis la première place qu'il nous le démontre, c'est qu'il est venu nous chercher. Puis il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Puis maintenant, on lui appartient. On est ses enfants. On est ses élus qui crient à lui nuit et jour. Puis il va faire promptement justice. Dieu va nous bénir. Puis il va nous faire du bien. Puis même si tout va mal, ça ne dit pas qu'il va enlever les épreuves. On va sentir en sécurité dans sa présence. On va sentir rafraîchi. On va sentir béni pour cette nouvelle année. Ça, c'est des choses qu'on doit aller chercher toute toute l'année. Tout le temps jusqu'à la fin de notre vie. Tant qu'on n'est pas mort, faut persévérer dans ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est la grâce que je vous souhaite pour chacun de vous. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel, je vais vous en donner l'occasion. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.